Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravelli Lemel. Bonsoir Ravelli Lemel.
Bonsoir.
Comme chaque semaine, nous allons survoler avec vous la paracha de notre semaine, celle que nous lisons dans nos communautés le samedi. Et là, on arrive à Vaera. Vaera, c'est une paracha longue qui parle de beaucoup de choses et surtout, on va dire peut-être des épisodes qui sont parmi les plus connus, non seulement de la Torah, mais de ce qui fait la pensée juive telle qu'elle est connue, y compris dans le monde, à l'extérieur. Par exemple, il y a la circoncision. Mais vous voulez réfléchir à l'attitude d'Abraham, là encore, au travers de deux de ses attitudes, si on peut dire, de deux de ses actes qui sont les plus marquants. Un, comment il reçoit ses invités en tout début de paracha. Deux, comment ensuite il se comporte vis-à-vis de Sodome et Gomorre. Et il a quelque chose de très particulier, Abraham, c'est qu'il se soucie de l'autre jusqu'au bout.
Exact. On a ici, donc, dans cette paracha, évidemment, deux textes qui sont très intéressants. Tout d'abord, le début, tout le monde connaît, Vayera Elav Avram, Vayera Elav Hashem Eloné Mamré, Dieu apparaît à Abraham dans les plaines de Mamré. Abraham, donc tout le monde sait qu'il est à l'extérieur de sa tente, il vient d'avoir la Brit Mila, la circoncision, il est dans l'attente des invités, Dieu a fait en telle sorte que des invités n'arrivent pas pour qu'Abraham puisse se reposer, et Abraham a tellement envie que Dieu, fait en telle sorte qu'ils arrivent, et ces fameux invités sont ces trois malachim, sont ces trois anges, ces trois messagers qui apparaissent sous l'apparence de trois bédouins du désert. Et la Torah nous relate comment Abraham, les voyant au loin, se lève, court à leur rencontre et fait tout pour les inviter, les invite et les sert de manière royale. Alors, évidemment, on a ici une première chose, c'est l'expression du chesed, du désir de donner à l'autre d'Abraham. Intéressant parce que quand la Torah nous relate l'histoire de ces trois bédouins qui arrivent, ces trois malachim, ces trois individus, on ne voit pas des personnes qui vont vers Abraham comme étant des pauvres personnes qui sont égarées dans le désert et qui auraient besoin du gîte et du couvert. Pas du tout. Il passe au loin. D'ailleurs, on voit qu'Abraham va courir. Ils ne vont pas vers lui. Ce sont ce qu'on appellerait des étrangers de passage. Et Abraham, au fond, il est là, il court et il va être dans une proposition. Il va les supplier, il va leur dire « je vous en prie, j'ai tellement de choses à vous proposer ». En vérité, dans la manière dont il l'exprime, il dit « bon, juste reposez-vous, un peu d'eau, un peu de pain », mais il va leur faire un festin. Abraham est là pour nous dire que ce qui est important, ce n'est pas tant de répondre à la demande de l'autre, mais c'est d'être en premier lieu force de proposition. C'est-à-dire qu'Abraham est là, il se dit « mais j'ai une tente, j'ai la possibilité d'apporter aux autres, alors je n'ai qu'une envie, c'est de leur donner ». Et rappelons-nous qu'Abraham, lorsqu'il leur donne, il ne leur donne pas juste de la nourriture matérielle, mais de la nourriture spirituelle, puisque lorsque les personnes quittent sa tente, eh bien, il les amène à réfléchir, lorsqu'il le remercie sur celui qui est à l'origine de tout, c'est-à-dire du Créateur de l'univers. Abraham est préoccupé réellement par l'autre dans son entièreté, pas juste dans sa dimension corporelle et physique. Abraham est celui qui au fond, n'a qu'un désir, c'est que l'autre puisse reconnaître le Créateur de l'univers et comprendre que l'univers a du sens, parce que lorsqu'on inscrit cette dimension à l'intérieur de notre vie, elle se voit dans une perspective radicalement différente, elle est source d'harmonie, de bien-être, de sérénité, parce que lorsque les choses ont du sens, eh bien, on les vit de manière totalement différente. Ça, c'est cette première chose que l'on voit, et au passage, comme le font remarquer les maîtres du Moussar, Rav Volbel, Rav Dessler, eh bien, Abraham ici, dans une seconde lecture de Rashi, lorsqu'il s'adresse à ces trois personnages, il s'adresse en vérité en premier lieu à Dieu. Il va dire « Dieu, s'il te plaît, ne t'en va pas un instant, j'ai quelque chose à faire ». Il y a aussi ici une leçon incroyable. Abraham, au fond, Dieu lui apparaît. Alors, ça veut dire quoi que Dieu nous apparaît? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais on va essayer d'imaginer une forme d'expérience métaphysique colossale. On peut se représenter une rencontre avec un personnage extrêmement élevé, dans des circonstances particulières, dans un lieu particulier, avec une intensité particulière. Et Abraham dit à cette personne, et là, il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit de Dieu, il dit « ça ne vous dérange pas, j'ai autre chose à faire ». Et au fond, ce qui révèle la grandeur d'Abraham, sa spiritualité réelle, c'est qu'elle ne l'empêche pas de voir l'autre, bien au contraire, elle est celle qui l'amène à savoir comment on se doit d'agir. Et on voit que Dieu l'attend. C'est-à-dire qu'au fond, Dieu est en train de dire « mais oui, au fond, c'est ça ». C'est-à-dire que la spiritualité, eh bien, sa dimension la plus aboutie, c'est quand elle me permet d'être dans une dimension agissante, et ici, en l'occurrence, dans une dimension agissante face à un tiers qui est là, et à qui je veux proposer quelque chose. Et cette leçon, déjà, est fondamentale. Et à nous de nous interroger, c'est sûr, si parfois notre démarche spirituelle, ou que l'on croit être spirituel, n'est pas aussi un lieu dans lequel eh bien, l'autre n'a plus sa place. C'est toute une réflexion, en tout cas, que chacun peut mener avec lui-même. Et une autre expression de cette dimension-là, eh bien, on le voit dans cette bataille, littéralement, qu'Abraham mène face à Dieu, au moment où il lui dit « Non, mais peut-être qu'on peut sauver Sodome et Gomorre ». Rappelons-nous que Dieu n'a rien demandé à Abraham. Dieu n'a pas dit à Abraham « Tu sais, je compte châtier ces deux villes, t'en penses quoi ?» Pardonnez-moi de lire de cette manière un peu légère, mais on ne voit pas du tout que Dieu s'adresse à Abraham pour lui demander quoi que ce soit. Il l'informe. Il lui dit « Eh bien voilà, sache que… » Et Abraham dit « Ok, mais moi j'ai peut-être quelque chose à dire. » Et il va, il commence à intercéder. Il y a peut-être 50 personnes qui sont bien, 45-40. Ce qui est très curieux, c'est pourquoi Abraham ne dit pas à Dieu « Il y a peut-être des gens justes dans Sodome et Gomorre, alors exfiltre-les, fais-les sortir, et puis les autres auront leur triste sort. » Non, Abraham, il est celui qui se dit « Mais au fond, s'il y a peut-être encore 50, 45, 40, 30, alors ils peuvent encore impacter peut-être la ville. Ils peuvent peut-être transformer encore quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Abraham est celui qui ne perd pas confiance dans la capacité que l'on a d'impacter l'autre à travers ce que l'on est. Abraham connaît les bénéfices collatéraux de la construction personnelle de l'individu. Il sait très bien que, eh bien, quand soi-même on essaye de grandir, d'une manière ou d'une autre, on va impacter le monde dans lequel on évolue. Et Abraham, il est là en train de se dire « Mais peut-être qu'il y a encore cela. » Et Dieu de lui dire « Eh bien, s'ils sont présents, pourquoi pas ?» On se rend compte qu'au fond, Abraham n'est pas de ceux qui disent « Bon, mais tant pis pour eux, hein, qu'ils s'assument. » Plus que cela, Abraham aurait très bien pu se dire « Et puis, en voyant périr ceux qui dysfonctionnent complètement, en voyant périr ceux qui ont mal agi, eh bien, ça va valider encore un petit peu plus ma philosophie, ma vision du monde. » Les gens vont dire « Regardez, les sociétés perverties comme Sodome et Gomorre disparaissent, ils sont dans le refus de l'altérité, dans le déni du divin. » Par contre, on peut bien comprendre qu'Abraham, qui est exactement le contraire, il est là. Non, Abraham ne fait pas cela. Pour lui, il est hors de question. On ne construit pas son histoire sur le cadavre de l'autre. On ne se fait pas grand parce que l'autre est devenu petit. Mais Abraham, il est ici et il se bat, et il retente, et il retente. Concrètement, ça ne marchera pas. Et il y a ici une leçon qui est extraordinaire. C'est quel est le regard que l'on décide de porter sur les autres. C'est-à-dire, comment on voit l'autre. Dans la première partie de cette paracha, Abraham voit l'autre comme étant celui qui, de par sa présence, crée chez lui une obligation. Lévinas, évidemment, va longuement développer cette notion-là, mais Abraham dit, voilà, si je le vois, je dois m'interroger sur la responsabilité que j'ai vis-à-vis de lui. Et là, la première responsabilité, c'est de lui apporter quelque chose. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin, ces Bédouins. Peut-être qu'ils ont leur eau, leur nourriture, mais je me dois de leur proposer, surtout que derrière, je peux peut-être leur donner autre chose. Et ils seront peut-être tellement heureux d'entendre une parole qui leur permettra de s'ouvrir à une dimension nouvelle à travers l'idée qu'il y a un Dieu créateur. C'est ce que Abraham fait vis-à-vis de tous ses invités, et ceux-là sont les mêmes. Et en même temps, eh bien, ne jamais désespérer. Ne jamais se dire, mais au fond, regardez, cette société, c'est complètement perverti, ça ne sert à rien. Non. Se dire, il y a peut-être toujours une possibilité. Néanmoins, quand Dieu lui dit qu'il n'y a même pas 10 personnes, quand Abraham sait qu'il n'y a même pas 10 personnes, alors, à ce moment-là, malheureusement, il sait qu'il n'y a plus rien qui pourra amener les gens de Sodome et Gomorre à se transformer. Il n'y a plus face à eux d'exemple. Au contraire, leur opulence, leur richesse que la Torah décrit est là comme étant une forme de blanc-seing par rapport à leurs agissements. Ils se disent, mais au fond, Dieu n'a rien contre. La preuve, c'est regarder notre réussite. Et là, malheureusement, eh bien, cette société va disparaître. Mais Abraham, malgré tout, nous montre qu'il faut être capable d'aller jusqu'au bout. Et peut-être que nous devions être capables, nous aussi, de nous inspirer de cette vision d'Abraham dans la réalité de notre quotidien, aussi bien dans notre manière de voir la lumière qui peut être encore potentiellement présente chez l'autre, que dans ce désir d'être force de proposition pour pouvoir lui apporter tout ce qu'on peut lui donner, et ce, comme on l'a vu, dans tous les domaines.
Dans ce que vous venez de nous dire, comment le faire tous les jours, il y a aussi, je crois, que Avram fait exprès de demander à Sarah, viens, aide-moi à faire les choses, Sarah, parce que quand on fait une mitzvah, on associe les autres. Par exemple, ce soir, associer les enfants, dire, viens, on met la table ensemble, ça rajoute, mais vous nous avez amené à réfléchir à l'attitude d'Avram, qui est d'autant plus remarquable qu'on se souvient ce que vous avez dit la semaine dernière. C'est le même que quand on l'attaque lui, quand on veut lui voler ses champs à lui, il dit, c'est pas grave. Prends celui que tu veux, moi je prends l'autre. C'est pas aucun problème. Et donc ça, c'est son attitude. Et aujourd'hui, on voit que non, ça l'intéresse les autres. Mais si c'est pour lui, c'est pas grave, il se repousse. Exact. Vous avez entendu ce que... Incroyable. Vous avez entendu ce que vous avez dit, Rav, évidemment. Donc, il ose dire à Dieu, tu m'excuses Dieu, j'ai des invités à recevoir. C'est-à-dire que les autres sont plus importants que Dieu. Mais Dieu se fâche pas. Ça qui est incroyable.
Ici, ce que nos maîtres font remarquer, c'est que au fond, c'est pas que les autres sont plus importants, mais ils disent au fond, ce qui montre que tu as vraiment compris ce que veut dire être proche d'Hachem, c'est le fait que tu arrives à voir l'autre dans son besoin. C'est-à-dire qu'on est là et parfois on est centré sur soi-même et on oublie qu'au fond, si l'autre est là, c'est qu'on a une responsabilité par rapport à lui. Et on n'est pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas se développer spirituellement et s'occuper que des autres, surtout pas. Et que l'essentiel, c'est le rapport à l'autre. Et non, au contraire, Abraham, il est dans un contact extrêmement élevé. Il est celui qui étudie la Torah, on va dire symboliquement, toute la journée. Il est celui qui se remplit, qui se nourrit, mais il voit. Seulement sa force, c'est justement, il voit l'autre, il ouvre une parenthèse. Et il fait ce qu'il doit faire vis-à-vis de cet autre. Et après, il referme cette parenthèse et il revient vers cette nourriture qui l'amènera à fonctionner de manière encore plus belle dans la prochaine rencontre qu'il aura avec cet autre.
Extraordinaire, extraordinaire. Et après, il vient de dire ça à Dieu. Hein. Et après, il revient et lui dit, non mais attends, mais fais pas ça. Incroyable, magnifique, vraiment magnifique. Ravi Lilemel, je vous remercie. Je vous souhaite de revenir avec plein de belles choses comme ça toutes les semaines. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
On part pour Jérusalem, où l'on retrouve le Rav Mordechai Bitton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Amavura, Rav Mordechai Bitton à Jérusalem. On continue avec vous notre réflexion sur la paracha de cette semaine. Et vous voulez vous réfléchir un instant sur ce qui passe des fois inaperçu, mais qui en fait mérite une vraie réflexion. On voit Abraham prier pour des Rechaïm. Normalement, et d'ailleurs je crois qu'on l'avait vu dans la paracha précédente, on s'éloigne des Rechaïm. Quand Lod lui dit, quand les bergers se disputent pour des histoires qui n'ont rien à voir avec la beauté du geste, il dit c'est bon, pars à gauche, pars à droite, il ne cherche pas. Mais on voit Abraham dans notre paracha, et d'ailleurs c'est l'un des passages les plus connus de la Torah, prier pour les Rechaïm. Et en fait vous dites, évidemment avec les Chachamim que vous allez pouvoir nous citer, vous nous dites, non ça mérite une réflexion, comment on prie pour des Rechaïm? Rechaïm on va peut-être le traduire pour que tout le monde s'entende, les gens qui sont mauvais, méchants, on prie pas, on s'éloigne de... Voilà, toute cette idée-là.
La vérité, expliquez-nous. Plus précisément, il va prier pour que les tzadikim, c'est-à-dire les justes de la ville de Sdom, soient sauvés, en fait, que toute la ville soit sauvée au nom du fait qu'il y a des tzadikim. C'est-à-dire que s'il y a des tzadikim dans la ville qui méritent par leurs actions, par leur crainte de Dieu, par leur bon trait de caractère, par leur bonté, qui méritent d'être sauvés, alors que toute la ville soit sauvée. Donc plus précisément, il prie pour les tzadikim, et donc effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, il prie pour les Rechaïm, il prie pour les impies. Alors je vais vous citer ici un texte du Zohar HaKadosh, qui se trouve qui est cité au nom du Midrash Ané Elam, hein, c'est-à-dire une série de Midrashim que nos Chachabim, nos sages, ont compilés tout au long des siècles, c'est sur la paracha de Vayera, donc notre paracha ici, page 105a, la référence exacte ici. Là-bas, il est quelque chose de très surprenant. Non seulement on va prier, pour Sdom, mais même, c'est plus que ça, c'est interdit de prier pour que les Réchaïm meurent. C'est que vous avez des gens qui sont vraiment des gens affreux. Les gens de Sdom, c'est des gens qui coupaient les jambes des invités dont les pieds dépassaient des lits, qui étiraient, enfin c'était des sadiques, c'était des gens d'une méchanceté, d'une saleté insondable. Il est interdit de prier pour que les Réchaïm meurent. Alors le Midrash dit la chose suivante. Mitzvah lo le'adam, c'est une mitzvah pour un homme, de prier sur les Réchaïm pour qu'ils fassent tshuva, chez Erzéro les Moutas, qu'ils reviennent au bien, et qu'ils ne rentrent pas au Guéhinnom, qu'ils n'aillent pas en enfer. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans Télim, Vani bechalotam levushisak, il dit, David Ameler dit, à leur sujet, je me suis revêtu d'un cilice, c'est-à-dire que j'ai prié pour eux, c'est dans Télim au chapitre 35, verset 13. Rabbi Yehuda HaKadosh, le rédacteur de la Mishnah, Assur lo le'adam, c'est interdit à un homme de prier que les Réchaïm disparaissent du monde. Et il explique pourquoi. Il dit parce que si c'était le cas, eh bien Terach, le père d'Avraham Avinu, aurait disparu, et Avraham ne serait jamais venu, le peuple juif ne serait pas là, la Torah n'aurait pas été donnée, Lot aurait disparu, et donc le Mashiach qui descend de Lot, qui n'était pas précisément un tzaddik, eh bien n'aurait pas pu advenir, donc l'histoire aurait eu une autre face. Qu'est-ce qu'on vient de nous dire ici ? C'est interdit. Vous voyez ce qu'elle veut dire ? Le Midrash ici va très très loin. C'est interdit de prier pour que les Réchaïm disparaissent. Des gens qui font du mal, qui sont des gens objectivement mauvais, interdit de prier pour qu'ils disparaissent. Pourquoi ? Parce qu'il est parfaitement possible que dans leur descendance, au long du futur, il y ait un certain nombre de gens qui produisent le bien. Ça, c'est ce que l'histoire nous enseigne dans la paracha ici. Mais également pour une autre raison. Rabbi Meir, par exemple, était importuné par des birionim, des voyous. La Gemara dans Brachot raconte qu'il s'est mis à prier pour que il disparaît, et sa femme Brouya lui a dit non, tu ne dois pas faire ça, parce qu'il est écrit Yitamu Chataim Minaretz, il est écrit que les fautes doivent disparaître, pas les Chotim, non pas les fauteurs. Et donc il a prié pour qu'il fasse Shuva, et il a été entendu. Alors qu'est-ce qu'il nous est dit ici ? Parce que quand on lit ce genre de texte, on a l'impression qu'on tombe dans une espèce d'apologie de la béatitude, ouais, une espèce d'angélisme un petit peu béat comme ça. Qu'est-ce qui est marqué ici ? En fait, ce qui est marqué dans ces textes-ci, c'est deux choses. La première, c'est qu'on ne connaît pas fondamentalement les comptes d'Hachem dans l'histoire, les comptes de Dieu dans l'histoire. Et donc nous, en fait, on doit toujours savoir que Hachem est propriétaire de l'histoire et qu'il sait quoi faire avec les hommes qu'il a amenés dans le monde. Donc prier pour qu'un homme disparaisse, et souhaiter qu'un homme disparaisse, maudire un homme pour qu'il disparaisse, c'est rentrer finalement d'une certaine manière dans les comptes d'Hachem. Donc ça, c'est la première dimension. Quand on veut réfléchir sur l'histoire de l'humanité, il faut intégrer le fait que nous ne sommes pas propriétaires de cette histoire. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, ce qui est raconté au sujet du Hafetz Chaim. Hafetz Chaim, dans sa ville, avait un groupe de gens qui étaient très, très laïcs et très militants et qui lui faisaient beaucoup de tzarot. Une fois, il est arrivé que les Bachourim, les élèves de l'Yeshiva, aillent se livrer à des actes de déprédation sur l'imprimerie de ce journal, qui est un journal très anti-religieux. Évidemment, ils ont été très vite identifiés. Et puis, donc, les laïcs du coin sont venus à la yeshiva et ont insulté le Hafetz Chaim. Et l'un de ces bachourim qui a insulté le Hafetz Chaim est devenu fou. Et alors là, à ce moment-là, les gens ont commencé à accuser le Hafetz Chaim de l'avoir maudit. Et le Hafetz Chaim a des choses suivantes. Il a dit « Je n'ai jamais maudit ce type-là parce que je n'ai jamais maudit un seul juif. » Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais maudit un seul juif. Jamais. Et je voulais simplement montrer, quand je me suis opposé à ces gens-là, que celui qui commence à s'attaquer au Bachouib de Yeshivot, c'est lui qui est perdant, et c'est lui qui à la fin deviendra fou, et c'est lui qui perdra la raison. Donc on voit ici que l'attitude, elle est aussi, et c'est un peu l'histoire de Rabbi Meir, finalement, quand quelqu'un maudit, quand quelqu'un se met à dire des paroles fortes, négatives, des paroles violentes à l'égard des gens qui se comportent mal, c'est comme si en quelque sorte il se prenait une tranche de colère, une tranche de mauvais caractère en lui. C'est comme si en quelque sorte il collait à son éphèche, à son âme, un trait de caractère négatif. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et nos sages sont très 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 prudents. Ils disent par exemple que le Hafetz Chaim dit « On peut répondre à des gens qui vont profaner le nom divin, qui vont s'attaquer à la Torah en public. Il faut faire très attention à la mida de l'insolence, au trait de caractère de l'insolence, parce que c'est une mida meguna, c'est un mauvais trait de caractère. Et c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais, il faut faire extrêmement attention. » Donc il y a aussi ce deuxième point qui est qu'en vérité, on risque de s'acquérir quelque chose d'extrêmement mauvais. Il y a un troisième point aussi, qui là touche au sod, au secret, au fondement de cette histoire-là. Vous savez qu'on a, on l'a dit dans les parachas précédentes, on oppose Avraham et Noach. Noach n'a pas prié pour l'humanité, et les chachamim, les sages de lui ont reproché. Quand on dit les sages, c'est-à-dire les sages de la Gemara, les sages de la Mishnah, c'est les sages de la Torah orale, le lui ont reproché. D'accord ? Pourquoi tu n'as pas essayé de sauver l'humanité ? Par contre, Avraham, lui, s'est acharné à sauver l'humanité. Pourquoi ? Parce que Avraham va révéler que dans la Mida, dans le trait de caractère de la Rachmanou, de la miséricorde d'Hachem, il y a une dimension qui échappe même à la perception humaine. Nous disons régulièrement les 13 attributs divins de miséricorde. Hachem, Hachem, Kel, Rachou, Vechanou, etc. Nous les citons tous les jours lorsque nous faisons Tachanou, les supplications après la Mida. Ces 13 attributs de miséricorde, en fait, que nous citons et dans lesquels disons qu'Hachem est miséricordieux, en fait, c'est un programme éducatif. C'est-à-dire que pour que ça s'applique, pour qu'Hachem les applique, il faut aussi que les hommes les appliquent entre eux. Donc, quand on parle de la Mida, du trait de caractère, du mode d'intervention d'Hachem qui s'appelle la miséricorde, on parle de quelque chose qu'on expérimente. On expérimente la miséricorde d'Hachem. Mais il y a une autre dimension, nous disent nos sages, qui est Rachamim de Rachamim. C'est-à-dire une miséricorde qui est en quelque sorte un attribut divin compréhensible, entre guillemets, seulement de Hachem lui-même. Or, Avraham Avinu, quand il s'est adressé à Hachem et qu'il a prié, il a prié au nom de la Rachamim de Rachamim. C'est-à-dire une espèce de miséricorde qui est un attribut divin parfait, qui est imperceptible à l'homme, mais qui est une manifestation de la capacité d'Hachem à inonder le monde de bonté. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, Hachem avait reçu la tfila d'Avraham Avinu ? Nos sages nous disent, il se serait passé la chose suivante, c'est qu'une partie des gens de la ville auraient fait tchouva, une autre n'aurait pas fait tchouva, mais dans cette ville qui était le cœur battant du mal dans le monde, eh bien aurait surgi une partie de la population qui aurait fait tchouva et qui aurait donc contesté l'ordre idéologique de ce dôme et de l'intérieur. Voilà ce qui se serait passé. Et donc finalement, comme Avraham ne va pas trouver donc un minyan de tzadikim, Hachem ne trouve pas de minyan de tzadikim, dans la ville ne peut pas être sauvée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on retient, on oppose Avraham et Noach, et qu'on retient que Noach nous a enseigné cette leçon de ne jamais désespérer de la rachmanou, de la miséricorde d'Hachem, et de ce qu'elle est capable de produire comme influence sur les humains, et donc de les pousser à faire teshuva. À l'autre bout de l'histoire et dans un autre registre, il y a un prophète qui s'appelle Jonas, dont on lit l'Haftara, le texte à Kippour. Et lui, il va refuser d'aller raconter sa prophétie aux gens de Ninive. Finalement, il est avalé de poison, recraché, etc. Finalement, il y va. Lui, il va dire la chose suivante. Il va dire, moi, je ne voulais pas aller là-bas parce que si ces gens avaient fait tchouva, ça aurait été accusateur à l'égard de Ham Israël. Et là aussi, Hachem va lui répondre à la fin avec un machal, qui est le machal du Kikayon. Il va lui dire, il va lui donner un arbre qui va le protéger, puis cet arbre va se défaire, et là Hachem se tourne vers lui, lui dit, tu vois, toi tu te désoles pour un arbre que tu n'as pas créé, et moi je ne devrais pas me désoler pour un monde que j'ai créé. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné ici ? Il nous a enseigné aussi la manière dont Hachem ouvre la porte à la tchouva. Et donc c'est ça ici qu'il nous a dit. C'est que, étant donné que quand Hachem a créé le monde, il a créé le monde avec la tribu de rigueur, mais qu'il lui a adjoint la tribu de rachamim, la tribu de miséricorde, il faut que cet attribut puisse s'exprimer dans le monde. Et donc, il faut que la porte de la tchouva soit ouverte. Et donc, il faut que les dirigeants spirituels du peuple juif soient des gens qui ouvrent la porte à la tchouva. Last but not least, un conseil pratique. Quand des gens vous énervent, parce que vous entendez parler de gens qui sont ouvertement des réchaïm et qui disent des choses terribles, terribles, terribles contre la Torah ou qui font des choses terribles contre la Torah, commencez toujours votre phrase par dire « J'tabach shebo la'at, que Hachem soit louangé. Pourquoi ces gens-là font ça ?» Ne dites pas de malédiction, ne dites pas de mots de colère, dites « Ishtabar Shebolat », que Hachem soit loué. Hachem, il sait ce qu'il fait dans son monde. Et après, interrogez-vous pourquoi ces gens-là font cela. Et là, vous aurez toute la possibilité de réfléchir sur les raisons de leurs actions et aussi la résonance que ça peut rencontrer chez tout un chacun d'entre nous, parce que s'il y a des Rechaim dans le monde, c'est aussi parce que chacun d'entre nous doit aussi faire des efforts. Les choses ne viennent pas toutes seules. Mais en tout cas, pour conclure, donc le trait de caractère fondamental qu'on demande de développer ici, c'est comprendre que Hachem agit dans le monde avec cette miséricorde et que cette miséricorde, elle est tout à fait nécessaire à l'ordre du monde. Ça ne signifie pas qu'on doit faire preuve d'un angélisme béat et crétin, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Il s'agit de comprendre comment fonctionne le monde. Il y a l'attribut de rigueur, c'est vrai, il est là, bien sûr, mais il y a aussi l'attribut de rachmanout, de miséricorde, et il est tout à fait fondamental. C'est un des enseignements les plus profonds de cette paracha.
Vous savez, Rav Mordechai, le matin, quand on fait les brachot, on dit « Yaratzon, que je sois protégé de toute une série de choses et que je sois protégé du Lashon Hara ». Et il y a Rav Rotenberg qui a dit à un ami à moi, il lui a dit « Moi, le matin, quand je mets « Protège-moi du Lashon Hara », je dis deux fois cette phrase. Parce que je n'ai jamais su s'il était écrit que je demandais à être protégé du Lashon Hara des gens qui parlent sur moi, ou que je sois protégé de dire moi du Lashon Hara. J'ai trouvé ça extraordinaire comme enseignement, et grâce à vous, j'ai la possibilité de le faire partager. Quand on voit quelqu'un que nous, on définit avec nos pauvres moyens, on n'est pas Rav Rotenberg, nous, ou même Rav Mordechai Bitton, donc nous, on dit les rachats, on n'en sait rien du tout. Déjà, regarde ce que toi, tu fais, t'occupe pas du Yetzer Hara des autres, occupe-toi du tien. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Rav Mordechai.
Oui, tout à fait, bien entendu, bien entendu. Essayons d'abord, c'est ça, je crois que c'est un enseignement fondamental, essayons d'abord de c'est un peu l'enseignement que Rav Shtedman a légué dans notre génération, essayons de comprendre la charge de travail qu'on a. On a une charge de travail qui est considérable pour nous, également vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis des gens auxquels on s'adresse. On a une charge de travail personnelle sur nos midotes qui est absolument considérable. Et ça, ça a été un des points sur lesquels Rav Shtedman a insisté, et ça a été le grand enseignement de ce tzaddik qui a littéralement fait une révolution, je pense, dans le monde juif. Et je pense que c'est cette révolution que j'essaie de partager avec nos auditrices et auditeurs chaque semaine, cette charge de travail qu'on a chacun d'entre nous, d'abord de considérer que l'on a une neshama, on a une âme divine, et on peut faire de grandes choses. Donc ne jamais désespérer de nous-mêmes et regarder ce qu'on a à faire.
Rav Mordechai Bitton à Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chadré.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, on me voit. Maria Chadré, on va parler à présent de Hagar, l'un des personnages centraux de notre paracha. Et c'est pour vous l'occasion de réfléchir sur comment éviter, on va dire, la posture de la victimisation, la posture de victime, et même comment éviter la victimisation.
C'est ça. Oui, alors on est dans une paracha, vous savez, qui nous rappelle beaucoup Rosh Hashanah, puisque la lecture du premier jour de Rosh Hashanah et du deuxième jour de Rosh Hashanah est issue de notre paracha, donc... l'annonce de la naissance de Sarah et tout ce qui s'ensuit avec Agar et Ishmaël, et puis le deuxième jour, la Akedat Yitzhak. Donc tout ceci dans notre paracha. Et je fais le lien avec Rosh Hashanah tout simplement parce qu'on entend un son, on entend une voix dans cette paracha, un col, pour être précis, et qui fait écho certainement au col du chauffard, au son du chauffard. On entend un son qui est juste. Quel est ce son qui doit sonner juste ? Il y a beaucoup de cols. Hein. Si vous regardez un petit peu la paracha, il y a vraiment le mot qui revient le plus, je crois que c'est ça, le mot-clé, c'est col. Il y a la fameuse phrase qui est devenue presque un symbole quand Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Tout ce que te dira ta femme, Sarah, Shema Bekola, écoute son col, écoute sa voix. » Donc il y a cette voix apparemment qui sonne juste de Sarah, et face à cette voix, il y a une autre voix, la voix de Hagar, qui s'est perdue dans le désert, qui n'a plus d'eau pour son fils Ishmaël, et Vatissa et Kola, elle a élevé la voix, elle pleure, mais malgré tout, apparemment ce n'est pas sa voix, elle, qui est entendue, c'est la voix de son fils, qui elle aussi est juste, la voix d'Ishmaël, Kol Hanahar, qui Shama Elohim et Kol Hanahar, la voix, encore une fois, la voix qui revient, la voix de d'Ishmaël qui va être sauvé. Agar va voir un puits, va pouvoir l'abreuver, et il aura une destinée telle qu'elle lui a été promise par Dieu, une belle destinée qui n'est certes pas la destinée du peuple d'Israël, mais Dieu a promis une belle destinée, un grand peuple, une grande nation pour Ishmaël. Donc en fait, ce qui m'intéresse et m'interroge ici, dans ce passage, le chapitre 21, eh bien, c'est cette posture de Hagar qui n'est pas écoutée, dont le col ne va pas être retenu, pas le sien en tout cas, Et face au col de Sarah, qui est juste apparemment, puisque Dieu intervient et dit qu'il faut renvoyer l'esclave à Agar. Alors, ce qui est certes difficile pour nous autres esprits occidentaux de comprendre, il y a une double difficulté de compréhension ici. C'est d'abord de pouvoir mesurer ce que signifie d'avoir son épouse officielle, on va dire, la maîtresse de maison qui est Sarah, et cette autre, alors qui n'est pas épouse, hein, nulle part elle est appelée une épouse, et ça reste une servante, mais qui a un fils d'Abraham toutefois qui est Ishmaël. Et puis la deuxième difficulté pour nous, c'est bien sûr de pouvoir concevoir le rôle de servante, qui est bien sûr inconcevable pour nous. Donc voilà, il faut qu'on fasse un petit peu cet effort d'imaginer l'Antiquité, et d'imaginer, alors je dirais, ce qui se rapprocherait le plus d'aujourd'hui du monde contemporain, ça serait une forme de gestation pour autrui. Donc elle est bien entendu la maman d'Ishmaël, Agar, mais elle ne peut pas se substituer au rôle de la maîtresse de maison. Et apparemment, ça provoque des difficultés pour elle, on l'avait déjà vu dans la parashat Lech Lecha. Et à un moment, certainement que sa posture aidant, Ishmaël va avoir une attitude extrêmement difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis de Yitzhak, qui est tout petit, qui est né. Alors le Midrash explique qu'il jouait, il visait avec son arc et sa flèche, et puis il fait semblant d'avoir mal visé, et puis bien sûr c'est pas un arc et une flèche achetés chez Toys R Us. Comme vous pouvez imaginer. Donc, Sarah, voyant le danger imminent concernant son fils, elle exige d'Abraham de renvoyer Agar chez Pharaon en Égypte. Elle était la fille du roi Pharaon. C'est une princesse égyptienne. Et ça déplut fort à Abraham, dit le texte, mais comme on l'a dit, Dieu intervient. Dieu intervient et donc il va devoir, alors non pas la répudier comme demande Sarah, Garesh, mais ce qu'il a fait, c'est Vayeshalchea, il l'a laissé partir, ou plutôt il l'a même libéré. Il l'a libéré, il lui donne ce qu'il faut, et puis bien sûr, ils sont rassurés, son fils connaîtra une grande et belle destinée, mais ce n'est pas par lui que passera la bénédiction centrale, la fameuse bénédiction d'Abraham. Et donc, sa maman est renvoyée, elle a de l'eau, elle a à manger, et elle se perd. Alors, elle se perd dans le désert, et puis c'est vrai qu'à la lecture de ce passage, vraiment, on est pris d'une empathie absolue, parce que ça a l'air horrible. Elle est renvoyée, elle se perd dans le désert, elle n'a pas d'eau, elle a un fils qui agonise, elle le pose et elle dit « je le laisse là parce que je ne veux même pas assister à son agonie et à sa mort ». Elle va s'asseoir à l'opposé, un peu plus loin, jusqu'à ce qu'un ange de Dieu, comme on l'a dit, n'entend non pas sa voix, mais la voix d'Ishmaël, et lui dit « mais enfin, ouvre tes yeux, il y a un puits d'eau, devant toi, et va donc abreuver cet enfant ». Alors, une lecture intéressante, que j'ai entendu chez le Rav Ribibo, au nom du Rav Samet, Avelchanan Samet, il explique la chose suivante. Il dit que volontairement, ce passage a été écrit de façon quelque peu symétrique. On voit bien sûr le lien entre Sarah et Yitzhak qui est né, on la voit allaitante, on la voit faire un grand festin. Et puis, la deuxième partie, extrêmement triste, Agar, répudiée, sans eau, qui ne peut pas donner à boire à son fils. Et finalement, à la lecture un petit peu plus rapprochée du texte, on voit que finalement, ce qui se passe pour Agar n'est pas si malheureux que ça. Finalement, Agar est une femme qui a été upgradée, qui a eu la chance d'avoir un fils du grand, grand, grand Abraham, qui est si connu, si noble et qui a une aura extraordinaire dans toute dans tout le Moyen-Orient. Elle a ce fils ce fils a reçu une bénédiction et elle est libérée. Et elle pourrait vraiment prendre son destin de façon positive, optimiste. Et en fait, elle n'est pas d'accord. Elle visait certainement de prendre la place de Sarah d'une façon ou d'une autre, ou d'avoir, elle voulait vraiment, on peut imaginer aussi qu'étant de sang royal, elle a vraiment une difficulté à garder sa posture. Et en tout cas, elle va faire le choix, et c'est vers cela que nous emmène le texte à sa lecture, elle fait le choix vraiment de s'enfermer dans une posture de victime. Et là où c'est dangereux, c'est que finalement, eh bien, elle en vient à gâcher tout ce qu'elle a de positif. C'est-à-dire que, et ça nous arrive à tous, hein, quand on prend cette posture d'y m'est arrivé quelque chose d'horrible et qu'on le radote et qu'on s'enferme dans cette posture-là, eh bien, finalement, le risque terrible, c'est de gâcher tout ce qu'il y a autour et qui fonctionne encore. De continuer dans une forme d'autodestruction. Et c'est ce qu'on voit ici apparemment. C'est-à-dire qu'elle ne se perd pas dans le désert, mais le texte dit « vateler, vateta », ce qui veut dire « elle est partie pour se perdre ». Elle avait envie de se perdre, d'une certaine façon, dit le texte, parce qu'elle voulait vraiment que soit bien visible, regarder comme c'est horrible ce qui m'arrive. Et du coup, elle n'a pas assez d'eau. Et alors qu'il y a un puits, visiblement, elle ne le voit pas. Et puis surtout, ce qui est étrange, c'est que cette femme a une attitude étonnante avec son enfant. On voyait plus haut Sarah qui protège, qui surprotège son fils Yitzhak. Bon, bien sûr, il y avait un danger. Et là, on ne comprend pas l'abandon d'Ishmael. On ne comprend pas qu'Agar abandonne, hein, c'est le terme, « vatashler et ayeled ». Et surtout, la métaphore utilisée par le texte, elle se met à une distance opposée de lui, de la distance d'un trait d'arc. Comme pour dire, comme si le texte nous invitait à dire, mais enfin, que fait Agar ? Elle est un peu comme si elle visait sur son fils, Dieu préserve. Enfin, c'est comme si elle le mettait à mort finalement. Enfin, c'est une métaphore utilisée ici par le texte pour nous dire c'est pour ça que quand elle élève sa voix pour pleurer, c'est une voix qui ne sera pas entendue. C'est une voix qui ne peut pas être entendue parce que c'est une voix qui n'inclut pas l'autre. C'est une voix qui est entièrement portée par ma souffrance, qui m'arrive, c'est la faute d'eux, et regardez et plaignez-moi. Et cette posture n'est certainement pas une posture qu'elle a apprise chez Avraham, puisque Avraham, tout au long de la paracha, on le voit prier pour Sédom, on le voit prier pour Avimélec, on le voit être extrêmement soucieux des uns et des autres, hein, c'est là vraiment le principe clé d'Avraham. Et là, on ne comprend pas cette posture de Agar, j'ai envie de dire qui s'égare, parce que elle n'arrive pas à contenir en elle son enfant, et pourtant on imagine juste que son rôle c'était à ce moment-là d'être près de lui encore et encore et encore, et elle n'arrive pas du tout à le contenir, tellement elle est marquée, tellement elle est envahie, animée par sa propre souffrance, sa propre douleur, tant et si bien qu'elle va aller dans de l'autodestruction, elle va se diriger dans cette autodestruction, et c'est là qu'intervient le texte et dit, eh bien, l'ange de Dieu a entendu la voix de l'enfant, sous-entendu pas la tienne. Et l'ange de Dieu lui dit, Malach, mais qu'est-ce que t'as ? Mais qu'est-ce que c'est ? Quel est donc ton problème, Agar ? Pourquoi est-ce que tu gâches tout finalement ? Regarde, il y a en fait de l'eau devant toi, va abreuve-le. Et donc, finalement, voilà, Ishmael est sauvé, Ishmael aura la grande destinée qu'on lui connaît. Et finalement, ce qu'on peut tirer de tout ce passage, c'est que comment est-ce qu'on peut évoluer au gré des épreuves. Parce que certes, Agar a eu une épreuve ici, certes c'est difficile pour elle ce qui s'est passé, en tout cas ce n'était pas en cohérence avec ce qu'elle souhaitait, elle ne souhaitait pas s'en aller même s'il s'agit d'une libération. Et finalement la question c'est comment faisons-nous pour grandir, ou surtout comment peut-on transformer, je dirais ça comme ça, une épreuve en preuve de réalisation, en preuve de ressources. Et ici, le symbole de Agar, finalement, c'est que son épreuve l'a fait se recroqueviller sur elle-même, au lieu d'essayer de trouver des ressources et des solutions et des possibilités, finalement, de grandir, de se déployer suite à l'épreuve. Et en fait, c'est ce qu'on voit en miroir, par exemple, quand Avraham est invité par Avimélec à prier, Avimélec avait, comme on se souvient, pris Sarah, il avait eu des plaies terribles, lui et son royaume, et il demande à Avraham de prier pour leur guérison. Et là, Avraham donc prie pour leur guérison, ils guérissent tous, et Rashi nous précise, eh bien, vous voyez, juste après avoir prié pour la guérison et donc la fertilité de Avimélec et de sa maison, eh bien lui-même a eu la promesse de la naissance d'Yitzhak. Et tout de suite après, on nous annonce la naissance d'Yitzhak. Pourquoi, dit Rashi ? Parce que cette aptitude-là à ne pas être enfermé dans sa propre douleur. On aurait pu se dire, on demande à Avraham de prier pour la fertilité de quelqu'un alors que lui-même, sa femme est stérile depuis tant et tant d'années. Ben, ça demande un déploiement extraordinaire de pouvoir envisager la souffrance de l'autre quand on est nous-mêmes complètement assaillis par notre propre douleur, notre propre épreuve. Et là, Rachid de nous dire, ben, c'est justement toute la force d'Avraham. La force, c'est ce que nous enseigne Avraham, c'est de pouvoir sortir de notre épreuve, de notre ego, de notre souffrance, de notre histoire personnelle, et de pouvoir envisager ce qui se passe autour de nous, de ne pas être dans ce regroupement sur nous-mêmes, mais au contraire dans cette ouverture. C'est d'ailleurs pour ça que certainement que le passage d'ouverture de la paracha de Vaïra, c'est la fameuse maison d'Avraham ouverte aux quatre côtés, pour nous dire que le point central dont il faut vraiment se retirer de cette paracha, c'est certainement ce déploiement, cette force d'Avraham, cette force de Sarah à ne pas s'enfermer, ne pas rester confortablement dans une posture de victime et s'auto-détruire et détruire toutes les ressources que nous avons, mais bien au contraire, pouvoir continuer à voir tous ceux qui sont autour de nous. Et en trouvant des ressources, même pour les aider, on réalise finalement bien que toutes les épreuves que l'on a, on peut les transformer et en faire des preuves de construction dans notre propre réalisation.
Rav Rosenberg disait la paracha de cette semaine, Vaera, c'est la paracha de Akedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak, qui bien sûr ne sera jamais sacrifié, fort heureusement, mais il ne sera jamais sacrifié. Mais toujours est-il que c'est, disait Rav Rosenberg, c'est notre plus grande fierté, notre plus grande médaille. C'est vraiment, les Juifs à travers le monde, voilà, regardez, c'est nous, on est Akedat Yitzhak. Il dit, on aurait aimé, pour un moment aussi énorme, on aurait aimé une introduction qui soit à hauteur. C'est quand même... On regarde le début de la paracha, trois visiteurs arrivent, on mange des matzot, on fait à manger. C'est pas recevoir des invités et faire cet acte, intrastellaire, un truc incroyable qui a traversé les générations et les millénaires. Bon, comme introduction, voilà, on fait venir des invités, on les met sous la tente et on leur propose à manger. On aurait imaginé autre chose pour le début de la pièce. Et Rav Rosenberg disait, eh ben pour Dieu c'est pareil. C'est pour ça que c'est l'introduction. Ce geste que vous venez de décrire, Mariacha, de nous donner les clés, ce geste-là est effectivement le début de la paracha qui nous amène à Akedat Yitzhak. Donc c'est quand même extraordinaire. Et ne croyez pas que les plus petits gestes soient plus petits au regard de Hachem. Mariacha, c'est beau, non ?
Ah, c'est magnifique, c'est magnifique.
C'est Rav Rosenberg.
C'est une jolie façon de rentrer dans le Shabbat mondial, voilà, d'ouvrir ses portes et de faire profiter du Shabbat à tout le monde. Tout le monde puisse vivre un Shabbat mondial.
Ah, c'est vrai. Et au regard de Dieu, le geste a une égale valeur à Akedat Yitzhak. Maria Chadré, je vous remercie. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom, au revoir. Et à la semaine prochaine.
À bientôt, au revoir.